Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. Nouvelle mobilisation ce soir à Lyon contre les violences faites aux enfants. Véronique Sarcelli a officiellement retiré les délégations de trois de ses vice-présidents, Aulas, Imberton et Seda. Coup de pression sur l'épreuve de philosophie ce matin dans l'Est lyonnais. Le collectif des lycées en éducation prioritaire a déposé un préavis de grève. Colère chez les policiers municipaux à Villeurbanne. La 29e édition du Printemps de Pérouges. Marie Rigaud, son organisatrice, est notre invitée.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvelle mobilisation ce soir à Lyon contre les violences faites aux enfants. À l'appel des collectifs Nous Toutes, Rhône et Enfantistes, un rassemblement est prévu à 19h devant la cour d'appel sur le parvis des 24 colonnes, une semaine après un premier hommage qui avait réuni des milliers de personnes suite à la mort dramatique de la jeune Liana, 11 ans. La pression ne retombe pas. Les militants dénoncent des choix politiques et un manque de moyens judiciaires qui privent l'État de son devoir de protection. Leur revendication principale reste un changer l'application intégrale des 82 préconisations de la CIVIS, la commission sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Notez que les collectifs l'annoncent déjà, ils continueront à se mobiliser tout au long de ce mois de juin. La présidente Les Républicains, Véronique Sarcelli, a officiellement retiré les délégations à trois de ses vice-présidents à la métropole de Lyon, Jean-Michel Aulas, Emmanuel Imberton et Laure Seda, une sanction qui fait suite aux révélations d'une plainte pour viol par soumission chimique visant l'ex-conseiller politique Roman Abreu, toujours présumé innocent. Les trois élus restent vice-présidents mais demeurent sans aucun pouvoir exécutif. À la ville de Lyon, Jean-Michel Aulas, chef de file de Cœur Lyonnais, a choisi de se mettre en retrait de la gouvernance et des fonctions représentatives. Idem pour Laure Seda. Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement, a annoncé quitter le groupe Cœur Lyonnais. Samuel Soulier, Horizon, maire du 6e. Emmanuel Hamelin et Nina Bouffet ou encore Émilie Derieux ont aussi fait le choix de quitter le groupe. Un coup de pression plane sur l'épreuve de philosophie ce matin dans l'Est lyonnais. Le collectif des lycées en éducation prioritaire a déposé un préavis de grève. Pour autant, pas de panique pour les candidats. L'examen aura bien lieu. L'objectif n'est pas de pénaliser les élèves, mais d'alerter sur l'abandon institutionnel de leurs établissements. 6 lycées de Vénissieux, Vaux-en-Velin, Rieux et Villeurbanne sont concernés. Le rectorat a déjà pris ses dispositions pour remplacer les surveillants grévistes si nécessaire. Une réunion inter-établissement est prévue cet après-midi à 15h à la Bourse du Travail. Colère également chez les policiers municipaux de Villeurbanne. Vendredi matin, une vingtaine d'agents se sont rassemblés dans l'hôtel de ville pour dénoncer une grave pénurie de personnel. Aujourd'hui, près de la moitié des postes sont vacants et ou non occupés. Conséquence directe, selon le syndicat Force Ouvrière, des agents de jour envoyés en urgence sur les horaires du soir pour boucher les trous. Un rythme jugé insupportable pour la vie de famille. Pour attirer de nouvelles recrues, les policiers réclament une hausse immédiate de leurs indemnités mensuelles et annuelles. De son côté, la municipalité assure que ces changements d'horaire ne sont que temporaires. Elle promet de privilégier le volontariat payé double et s'engage à ouvrir des négociations dès la rentrée de septembre sur l'attractivité des salaires. Une intersyndicale historique de la CGT à la CFDT en passant par Force Ouvrière s'est rassemblée vendredi devant les Prud'hommes à Lyon. Le motif de leur colère, l'instauration depuis le 1er mars d'un timbre fiscal de 50 euros pour pouvoir saisir la justice de proximité ou les Prud'hommes. Pour les syndicats, cette mesure pénalise les plus précaires. Le syndicat solidaire dénonce un recul démocratique pour des salariés parfois privés de salaire depuis des mois. Les syndicats rhodaniens interpellent désormais les députés et sénateurs de la région pour réclamer le retour à la gratuité de la justice.
Lyon Demain, créateur d'envie.
Bonjour Marie Rigaud.
Bonjour Gérald Bouchon.
Le printemps de Pérouges qui fait son retour, un printemps qui a des allures de début d'été maintenant, puisque ça commence le 23 juin. En tout cas, ça se passe sur un lieu qui est assez prestigieux, qui est un château qui est sur la plaine de l'Ain. Un château qui est bien connu des Lyonnais. Expliquez-nous pourquoi.
Et oui, effectivement, on a cette chance là d'être sur un site très inspirant, très bucolique, très rural aussi, les pieds dans l'herbe, dans le vert. Ici, il s'agit du parc de la maison d'enfance d'Antoine de Saint-Exupéry, qui se trouve donc sur la commune de Saint-Maurice-de-Raymond. On est juste à côté d'Ambérieu-en-Bugey, hein, pour situer un peu. Et c'est un cadre vraiment enchanteur sur une commune de 600 habitants seulement. Un parc de 5 hectares, je le disais, avec des arbres centenaires, avec une maison familiale qui trône à l'entrée rencontrée et qui a donc vu grandir Antoine de Saint-Exupéry, qui y a passé la plupart de ses étés et de sa vie, et qui, selon en tout cas ce que l'on entend dire, était très, très attaché à cette maison familiale et à ce parc où il y a une vibration, dit-on. En tout cas, les festivaliers nous font souvent ce retour. Il y a le charme opère, la magie opère, et effectivement, c'est un écrin en tout cas vraiment idéal pour organiser désormais notre événement.
La plaine de Lin qui a vu également grandir, eh bien, cette fois-ci, le printemps de Pérouge, hein, le printemps de Pérouge qui est né il y a bientôt 30 ans, parce que ce sera l'année prochaine, le 30e anniversaire.
Déjà 30 ans, oui. 30 ans d'anecdotes, de parcours passionnants, en effet, dans cette industrie musicale foisonnante. Hein. C'est sûr qu'il y a 30 ans, il se passait moins de choses dans la région, dans le secteur et dans ce, et en tout cas dans ce milieu musical. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, en effet, on est dans un écosystème bien, bien fourni.
Comment on arrive à se faire une place quand on est un projet associatif? Parce que je crois que vous êtes encore une association avec des bénévoles. Comment on s'inscrit là dans cette industrie musicale qui elle, n'est plus trop associative, quoi. C'est plutôt du business aujourd'hui.
Oui et non. En effet, comme vous venez de le rappeler, alors c'est du business, oui, bien évidemment. On n'est pas là pour faire des éditions déficitaires. Je tiens d'ailleurs à dire que c'est une association qui s'autofinance quasiment à 100%, ce qui est extrêmement rare de nos jours et dans l'écosystème que vous connaissez. Seulement 3% de subvention là, pour notre édition 2026. Donc, on a quand même planté des graines, tissé notre toile, et notamment sur les partenariats privés depuis 29 ans. C'est donc un festival qui est financé par la billetterie d'une part et les festivaliers, mais aussi beaucoup par un maillage d'entreprises, donc sponsors comme on dit, ou mécènes même, très attachés aussi au festival et qui lui assurent en tout cas un ancrage territorial certain aujourd'hui. Et puis vous l'avez dit, un format associatif vraiment gagnant et réussi chez nous, puisque qui dit associatif, loi 1901, dit possibilité d'avoir ce qu'on appelle en effet des volontaires, des bénévoles. Cette année, on bat de notre record, 520 demandes entrantes de bénévoles, donc ça devient vraiment une grande organisation, ça c'est sûr, et également une réussite au niveau de l'accueil de l'organisation, qui est beaucoup portée en effet par les bénévoles, aussi les professionnels, mais en tout cas beaucoup par les bénévoles, et qui est saluée vraiment par le festivalier aussi, qui remarque quand même qu'on est déjà très bien rodé à tout ce qui est accueil, avec un esprit familial évidemment qui transpire, hein, puisque c'est un festival porté par des sœurs, comme vous le savez, par des femmes. Une partie, en tout cas, du succès, de la longévité et du fait qu'on s'est fait en effet une place, comme vous le dites, tient en effet, je crois, à tout ça, en tout cas, un équilibre entre bien sûr la programmation, bien sûr une alchimie, ouais, merci, l'expérience festivalier et puis aussi cet accueil un peu hors norme et particulièrement excellent, qui est réservé aux festivaliers.
Alors, il y a un côté également solidaire, il y a un côté engagé, un côté éco-responsable. Solidaire, par exemple, ça veut dire auprès de quel public qui vous faites venir au printemps de Pérouge?
Solidaire, et de plus en plus. Il nous restait notamment quelques places cette année là sur des affiches famille et populaire. Je pense à Louane ou à Christophe Maé, par exemple. Et c'est vrai que j'ai pris l'initiative de me rapprocher de têtes de réseau qui sont déjà eux-mêmes sur des sujets solidarité, en tout cas en local et en départemental. Et donc, on a contacté la plupart, notamment des secours populaires, secours catholiques, Restos du Cœur, la Rénoverie, qui est une brocante solidaire aussi bien implantée dans le département et en Berrieux, pour leur offrir des billets qui s'adressent donc à des familles qui n'ont pas ni pour habitude ni pour possibilité d'aller au concert et d'emmener leurs enfants et de vivre ce partage-là. Oui, c'est vrai que là, on a vraiment ouvert les vannes. On accueille aussi tous les soirs des enfants qui sont placés dans des maisons et des foyers d'accueil dits MEX, qui sont des enfants placés judiciairement. Donc, on a des groupes tous les soirs d'une quarantaine d'enfants qui sont très, très jeunes pour la plupart, jusqu'à ados et pré-adultes, qui viennent avec leurs éducateurs et qui sont en effet encadrés et avec lesquels on a tissé des liens, puisque c'est pas la première année qu'on le fait, mais on a vraiment plaisir à accueillir ces publics-là et à leur donner cette possibilité de vivre pour la plupart leur premier concert et de découvrir ce que c'est aussi que les coulisses. On leur fait visiter le site, on les accompagne de leur arrivée au départ. Et donc, ça nous tient très à cœur d'avoir ce volet solidarité de plus en plus marqué chez nous.
Et un festival écolo, ça existe ça? Parce qu'on dit toujours que les festivals, que la culture, quand on déplace des foules par exemple en voiture, c'est pas forcément très écolo. Qu'est-ce que vous faites vous dans ce domaine-là?
Alors c'est sûr que je peux quand même pas en effet vous vendre de la poudre de perlimpinpin comme on dit. Évidemment qu'organiser des concerts de plus en plus spectaculaires et exceptionnels, ça n'a rien d'écolo, mais là je crois que avant tout c'est un sujet du spectacle vivant privé tout court. Néanmoins, en effet on mène des actions et depuis toujours. Alors ça passe par évidemment encourager le covoit hein, qui quand même malgré tout est de plus en plus fonctionne de plus en plus.
Ça met de l'ambiance également quand on se déplace.
Aussi on peut rencontrer en effet des gens
l'expérience après le concert.
Bien sûr, on peut rencontrer des gens sympas. On a de plus en plus toute la distrib ELEC évidemment de plus en plus basse tension. Toutes les lumières sont LED, donc ça c'est évidemment la nouvelle tendance côté éclairage et lumière. On a des groupes électrogènes verts. On a bien sûr des toilettes sèches depuis toujours. L'ensemble de l'habillage du site, les matériaux sont tous recyclables. Tous les ensembles sont démontables et remontables, donc il n'y a pas de perte et de déchets en tout cas sur nos structures et infrastructures. Et puis on a le tri qui est fait, un chouette partenariat avec GRDF. Tous les soirs on donne notamment le tonnage des déchets retraités. Plein de petites actions menées, une brigade verte super efficace, des petits plus comme le colibri, nous aussi on fait notre part comme on dit et comme on peut. Néanmoins, et vous l'avez rappelé hein, on met du son, on met de la lumière et c'est ce que les gens veulent aussi malgré tout voir et vivre à un moment un peu exceptionnel.
Voilà, et puis le centre quand même du festival, ce sont les soirées, les affiches. Alors il y a 6 soirées, là vous allez tout nous dire là, sur les 6 soirées. Ça commence par Lenny Kravitz, hein, qui commence que ce gros cylindré là.
On a 6 belles soirées et en effet quelques superstars, icônes. Lenny Kravitz en tête, hein, qui est un artiste qu'on approchait ou en tout cas qu'on espérait avoir depuis vraiment longtemps. On l'attend de pied ferme, je peux vous dire. On écoute sa musique en boucle depuis des mois et c'est vrai que ça va être une soirée, je pense, assez mémorable, musicalement parlant. Lenny Kravitz, c'est quand même le top du top du rock-pop, de la pop-rock. Et puis tous les soirs, en effet, son lot de bonne musique. Hein. La bande-son cette année est quand même assez incroyable. Le lendemain, un peu plus pour des aficionados, Magma et Australian Pink Floyd Show, c'est aussi du super bon, qui s'adresse à un public peut-être un peu plus niche, mais comme quoi on sait faire et du très populaire chez nous et de la musique plus pointue. Puis on enchaîne avec Jean-Louis Aubert qui fête ses 50 ans de carrière avec tout le catalogue. Là, c'est vraiment pépite, programme pépite avec tout le catalogue de téléphone et aussi ses grands titres phares. Donc vraiment, c'est un panorama de sa carrière. Et lui aussi, c'est évidemment une icône de la chanson rock française. À découvrir aussi l'excellentissime Sam Sauvage qui a fait parler de lui cette année, qui s'inscrit dans les nouvelles générations super talentueuses. Et puis le vendredi, à partir du vendredi, samedi, dimanche, on bascule plus sur une programmation familiale, extrêmement populaire et en tout cas de musique actuelle hyper tendance. Christophe Maé, évidemment, qui vient de sortir son album, on ne voit que lui en ce moment, donc ça tombe quand même assez bien pour nous. Ton album Fête Foraine, et puis un artiste qu'on connaît déjà pour être super généreux sur scène et hyper communicatif et communicant. Le lendemain, c'est un peu là aussi, finalement, comme Kravitz, version féminine, la méga star de l'année avec Théodora, que personne n'attendait vraiment ou que personne n'a peut-être vu venir, mais qui cette année a vraiment percé dans l'industrie musicale, en tout cas française francophone, pour être, on va dire, l'artiste féminine de l'année. Donc très attendue avec un public jeune et une soirée créative, ça c'est sûr, à n'en pas douter. Donc pareil, on s'impatiente de cette soirée. Sûrement hyper réjouissante. Mickey en première partie, qui fait aussi partie des révélations comme Sam Sauvage de l'année. Et puis on termine avec un trio féminin hyper enthousiasmant. En tout cas, moi j'écoute ces trois artistes depuis longtemps. La plus jeune d'entre elles, c'est Louisa qui a cartonné l'été dernier avec Soleil Bleu. Mentissa, qu'on connaît déjà depuis quand même quelques années, avec quelques titres aussi super forts, super phares, et une belle artiste en tout cas dans la chanson française. Et puis Louane, qui est l'artiste française sûrement dans le cœur des Français bien accroché, qui a déjà fait une tellement belle carrière, beau parcours, et dont on attend évidemment la venue et tout son fan club, hein, tout ce jeune public qui écoute du Louane et qui va nous enthousiasmer. Donc là, on est plus sur du très jeune public. musique, qui vient avec ses parents, grands-parents. C'est le dimanche et ça se terminera par un feu d'artifice le dimanche soir.
Voilà, c'est toujours un plaisir de vous entendre parler avec autant d'enthousiasme de votre bébé, le printemps de Pérouse, un bébé qui fêtera ses 30 ans, donc qui est déjà bien grand.
Ouais, c'est déjà un adulte hein, quand même. Mais oui, effectivement, tout va bien en tout cas. C'est un festival qui se porte bien. On a des super équipes. C'est sûr qu'on commence à être rodé aussi à l'exercice de préparation, d'installation technique, logistique, qui va là nous prendre 10 jours. Donc c'est effectivement l'excitation. Hein. On est dans les starting blocks et c'est sûr qu'on a de quoi se réjouir.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie Rigaud.
Merci à vous.
Le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, Paul Sexas tombé lourdement samedi, a abandonné pendant la dernière étape. Samedi, le Lyonnais avait chuté après 32 km de course à une vitesse de 70 km/h. Après avoir glissé sur 20 à 30 mètres dans les graviers, il s'est relevé avec de multiples blessures aux mains. Le Lyonnais avait franchi le premier col hier, mais sa course s'est arrêtée au pied de la seconde difficulté. Notez que ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes, l'ex-Dauphiné libéré, s'est terminé hier avec la victoire du Mexicain Isaac Del Toro qui empoche une deuxième étape et le général final. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain pour une prochaine édition. Excellente journée.